En habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Dans le cadre du programme Femmes en Académie, diffusé sur Canal Academy à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons le grand plaisir de vous proposer aux côtés de Claude Dulon-Saint-Denis maintenant tout un parcours aux côtés des grandes amoureuses du grand siècle. Amoureuses du grand siècle étant en effet le titre d'un ouvrage historique paru aux éditions du Rocher. Claude Dulon-Saint-Denis, bonjour.
Bonjour.
Vous nous rappelez qu'au grand siècle, donc au XVIIe siècle, la loi condamnait les femmes au statut de mineures, c'est-à-dire qu'elles ne quittaient, écrivez-vous, la tutelle de leur père que pour passer sous celle de leur mari. La soumission était la première et parfois la seule vertu qu'on exigeait d'elles. Alors pourquoi cette angoisse, cette peur montrée par la gente masculine vis-à-vis de l'instruction que l'on pouvait donner aux femmes ?
Eh bien, justement pour ça, parce que l'instruction pouvait leur permettre d'échapper à ce statut un peu d'être soumis, je ne dirais pas asservi, ce serait trop fort. L'instruction leur permettait de prendre des responsabilités et des initiatives.
Donc l'instruction était vue comme une sorte de danger qui pouvait ouvrir sur la remise en question et la liberté de penser.
Oui, mais là encore, il ne faut pas exagérer, parce que l'Église, qu'on pourrait croire très rétrograde, a quand même fait beaucoup pour l'instruction des femmes.
C'est-à-dire ?
Eh bien, elle a créé les premières écoles pour les femmes, en pensant justement que si les toutes jeunes filles étaient mieux instruites, elles tomberaient moins dans certaines erreurs. Parce qu'après tout, on pouvait considérer le problème des deux côtés.
Alors, l'instruction était donc prodiguée à l'intérieur des couvents. Mais les jeunes filles étaient ensuite invitées à rester dans ces couvents ?
Il y a deux choses d'abord différentes. Il y avait les couvents où en effet les filles étaient internes, mais il y avait aussi, c'est une grande institution, innovation du XVIIe siècle, il y a ce qu'on a appelé les petites écoles, c'est-à-dire pour celles qui n'avaient pas la possibilité d'aller dans les couvents, des petites écoles comme nos écoles communales, si vous voulez.
Mais tenues par des religieux.
Oui, tenues par des religieuses, dans Paris ou dans les grandes villes. Ça, c'est une invention du XVIIe siècle.
Alors vous nous présentez dans Amoureuses du grand siècle les portraits de plusieurs femmes qui ont dû affronter leur destin, comme vous l'écrivez, ou qui ont échappé à ce destin. Ces femmes ont su parfois faire de leur faiblesse une force, et les hommes qui auraient dû être leurs maîtres sont devenus, écrivez-vous, leurs esclaves, comme disaient les poètes à l'époque. Alors, expliquez-nous, racontez-nous comment ces femmes ont pu échapper, résister en quelque sorte à leur destin.
Il fallait un certain nombre de chances et aussi pas mal de qualités. D'abord, il y avait le moyen, si j'ose dire, le plus facile, c'était de se servir de ses charmes. Mais là encore, il faut bien distinguer. Par exemple, il ne faut pas confondre une Marion Delorme et une Ninon de l'Enclos. Marion Delorme était, mon Dieu, une prostituée de haut niveau. Ninon de l'Enclos a été un personnage car elle avait acquis, elle, une instruction. Et quand, mon Dieu, ses charmes se sont fanés, comme il arrive hélas à toutes les femmes, elle a pu tenir un salon où on allait pour le charme de sa conversation, alors qu'autrefois on y allait pour ses beaux yeux.
Oui, vous dites incontournable cette Ninon de l'Enclos en parlant de ce grand siècle. Sans elle, ce grand siècle ne serait pas tout à fait ce qu'il fut. Pourquoi ?
Eh bien, c'est vrai, disons d'abord sur le plan matériel. Pour les jeunes gens, c'était une espèce de brevet d'être passé par chez Ninon, n'est-ce pas ? Le fils de Madame de Sévigné a été un moment l'amant de Ninon, et mon Dieu, Madame de Sévigné s'y résignait en se disant que c'était une sorte de passage obligé pour un jeune homme à la mode.
Une référence.
Absolument, c'était une espèce de référence, parce qu'on savait qu'on y goûtait certains plaisirs, mais aussi les plaisirs de l'esprit et de la conversation. Elle ne supportait pas un homme mal élevé ou autre. C'était quelqu'un, en effet, de très particulier.
Vous rapportez les mots de Chateaubriand, cette Ninon de l'Enclos, à la fois philosophe et courtisane.
Oui, oui, il a dit ça assez méchamment, mais c'est assez vrai, c'est assez vrai.
Et vous dites, d'autre part, que les sociologues d'aujourd'hui feraient grand cas des antécédents pour expliquer la déviance de Ninon. Alors, Ninon avait dévié.
Non, la déviance par rapport aux bonnes mœurs de l'époque, nous ne dirions pas une déviance. Elle a choisi de vivre librement, de coucher avec qui elle voulait, si vous me passez l'expression. Pour nous, ça nous paraît naturel.
Une femme libérée, Ninon de l'Enclos?
Oui, c'était une femme totalement libérée des principes et des mœurs de son siècle.
Mais qui n'était pas mise à l'index par ses contemporains?
Ah, elle était mise, bien sûr, dans les milieux dévots. On ne parlait pas d'elle, on n'en parlait qu'avec horreur. Mais toute la société élégante trouvait très bien d'aller chez Ninon de l'Enclos. C'était un salon. Elle a réussi ce tour de force d'être... C'était une demi-mondaine et avec un salon très intéressant où allaient les plus grands écrivains, voire Saint-Évremond.
Alors on disait d'elle et puis de ses consoeurs, Marion Delorme n'était qu'un corps, Ninon une intelligence. Et vous rappelez la phrase de Ninon de l'Enclos, il faut 100 fois plus d'esprit pour faire l'amour que pour commander des armées.
Oui, là elle allait peut-être un peu loin pour amuser ses convives. Mais l'expression faire l'amour au XVIIe siècle est assez étendue, n'est-ce pas? C'est toute la fréquentation avec un homme, et pas seulement à quoi vous pensez.
Alors, de Ninon de l'Enclos, donc simple prolétaire, Ninon de l'Enclos,
Elle était de milieu bourgeois, vous savez.
Alors, de ce milieu bourgeois, nous passons à la royauté. Vous évoquez Anne d'Autriche, petite infante, mariée à 14 ans, à Louis XIII, qui lui avait le même âge qu'elle, mariage politique, nous rappelez-vous, bien différent de son père, Henri IV. Louis XIII, lui, était un adolescent timide, introverti, de santé fragile. Il ne réussit à consommer son mariage avec Anne d'Autriche qu'à 18 ans. Encore avait-il fallu le porter de force dans le lit de son épouse.
Et imaginez ce que c'était de consommer un mariage quand on est timide, devant trois médecins, deux ou trois courtisans qui restent là dans la chambre pour être sûr que le mariage est consommé. Parce que c'est très important que le mariage soit consommé, sinon il n'est pas valable et on peut renvoyer la princesse et perdre plusieurs provinces qu'elle a portées en dot.
On comprend la timidité de Louis XIII.
Alors si vous êtes déjà un peu timide comme il était, imaginez l'épreuve.
Donc Anne d'Autriche va subir pendant 22 ans, l'humiliation de ne pas pouvoir donner de descendant à la couronne, mais elle n'était en rien responsable de ce fait. En quoi ce personnage féminin a inspiré l'historienne que vous êtes? Est-ce sa relation avec Mazarin ou sa personnalité propre?
C'est sa personnalité propre qui a fait que cette petite princesse de 13 ans est devenue régente. Ce n'est pas rien de devenir régente, c'est occuper la place du roi. Car quand son mari, le roi Louis XIII, est mort, elle s'est trouvée avec un fils mineur. Donc Louis XIV ne pouvait pas régner et elle a assumé pendant une dizaine d'années la régence. Elle a dû prendre des décisions et elle a en effet choisi un premier ministre qui a été Mazarin, mais ça c'est toute une histoire dont nous reparlerons peut-être. Et à eux deux, ils ont quand même très bien gouverné.
Pourquoi dites-vous que justement ce rôle de régente était dévolu essentiellement à des femmes?
Pour une raison très simple, c'est que si on avait dévolu la régence au premier mâle de la famille, c'est-à-dire à l'oncle du petit roi, eh bien il aurait très bien pu le tuer pour devenir roi, tandis qu'une femme ne pouvait pas être reine.
La protection maternelle?
Elle ne pouvait être que régente, donc elle n'aurait eu, si je puis dire, aucun intérêt à tuer son fils. C'est ça la vraie raison.
Alors on prête à Anne d'Autriche des sentiments très forts pour Mazarin.
Alors Anne d'Autriche a pris comme ministre quelqu'un qui était déjà dans le circuit, n'est-ce pas? Elle n'est pas allée le chercher en Italie pour le faire venir. Il avait été formé, il avait servi Richelieu, le précédent ministre. Ils se connaissaient, mais évidemment, les Français qui avaient déjà eu un premier cardinal ministre, Richelieu, dont ils n'avaient pas gardé un bon souvenir, se sont vus avec un second cardinal ministre à leur tête. Ça ne leur a pas plu, parce qu'ils pensaient être débarrassés de ce personnage du premier ministre, qui était assez nouveau. Il aurait préféré que le roi gouvernât lui-même, mais le roi avait 5 ans. Et alors les bruits les plus fous ont couru. Moi je pense, et je l'ai dit, qu'il y a eu une très grande amitié, très profonde, qu'il y a eu un sentiment entre eux. Je n'oserais jamais affirmer que ce sentiment ait pris la forme d'une liaison charnelle. Parce que tout de même, vous me direz, il n'avait pas les ordres. C'est vrai, il avait les ordres mineurs seulement. Ce qui, par exemple, ne l'aurait pas empêché de contracter un mariage secret, à condition de renoncer à l'Église. Mais ça se serait su. Et elle aurait perdu tout son crédit. Mais vous savez, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de me faire une idée sur cette liaison et j'y réfléchis encore beaucoup parce qu'il y a un autre élément qui est tout de même très troublant, ce sont les quelques lettres d'elle à lui qu'on a gardées.
Il y avait une sorte de code d'ailleurs dans leurs échanges.
Ah oui, il y avait des codes en effet qui peuvent correspondre à des mots de tendresse. Quelquefois ce sont des choses politiques. Mais il est bien évident qu'on n'a que 13 lettres d'Anne d'Autriche. De lui on en a des vingtaines. Alors lui aussi écrit des lettres très enflammées qui n'en peut plus de ne pas l'avoir. Mais on n'a jamais une grande impression de sincérité. Tandis qu'elles, ce sont des lettres personnelle, écrite par elle-même, de sa main, d'ailleurs difficile à déchiffrer, et on a une sensation de sincérité tout à fait extraordinaire. Et ce ne sont pas des lettres d'une reine à son ministre. Je ne sors pas de là, je me suis fait attaquer même pour ça, mais ce ne sont pas des lettres de reine à son ministre. Ce sont des lettres d'une femme qui aime. Encore une fois, je ne sais pas jusqu'où est allé cet amour, mais elle l'a aimé.
Tendresse, affection, respect. Toute une polémique autour d'eux, des paroles très très dures.
Oh.
La fronde était là et ne laissait rien passer. On a traité d'homosexuel.
La littérature critique ou satirique a atteint son plus bas niveau à ce moment-là. Parce que, oui, lui a été traité. C'est chose extraordinaire, on l'accusait d'être l'amant de la reine et en même temps on le traitait d'homosexuel. Et elle aussi a eu des pamphlets ignobles, absolument immondes, sur elle et sur lui. Je crois que même maintenant, on n'oserait pas écrire des choses comme ça.
Aujourd'hui, en 2006, nous sommes très sages hein, par rapport à ces polémiques, à ces pamphlets, à ces écrits.
C'est incroyable.
Diffamatoires.
Les cheveux se dressent sur votre tête quand vous lisez les pamphlets de la Fronde. La crudité du langage. Eh bien, elle a supporté ça, cette femme.
L'irrespect par rapport au pouvoir en place.
Oh, l'irrespect, oui. Plus, l'irrespect, la grossièreté, là, oui, c'est très étrange. Ça a pris fin avec Louis XIV, parce que là, les pamphlétaires ont été sérieusement punis.
Alors retournons à l'intérieur de nos couvents, Claude du Long-Saint-Denis, auprès de ces missionnaires qui ont, elles aussi, montré un courage phénoménal de résistance par rapport à l'institution en place à l'époque.
Oui, c'est très important, les femmes et la religion, comme chapitre dans l'histoire du XVIIe siècle, pour plusieurs raisons. D'abord, c'était un des rares domaines où les femmes pouvaient donner leurs mesures. Il y avait là un domaine, je dirais presque politique, en dehors bien sûr du domaine de la piété et du domaine de la foi qui était intense. C'était une époque de saints et de martyrs. Nous n'avons plus tellement l'idée de cette profondeur de la foi à notre époque. Et en même temps, l'Église, contre toute attente, donnait aux femmes le moyen de montrer de quoi elles étaient capables. Je ne pense pas seulement à l'enseignement, où elles ont fait merveille, mais je pense à l'épopée des missionnaires du Canada, par exemple, ce qu'on appelait la Nouvelle-France.
Vous évoquez une certaine Jeanne Mance.
Oui.
En 1640, elle part en mission à Montréal et là va vivre des aventures extraordinaires.
Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, d'ailleurs le souvenir de ces femmes est resté très très vif au Canada. Ben, elles ont voulu être missionnaires. Vous imaginez ce que c'était d'être missionnaire quand vous arriviez dans un pays où il neigeait 8 mois par an, que vous n'aviez d'abord pas l'équipement nécessaire pour affronter les frimas, que vous n'aviez aucun couvent construit, vous logiez dans des cabanes, qu'il y avait des loups qui hurlaient toute la nuit autour de vos cabanes et qu'en plus, il y avait des Indiens qui n'étaient pas du tout habitués à la présence des hommes et des femmes encore moins, et qui étaient tout à fait menaçants. Et elles ont réussi à pacifier, à évangéliser, non pas les loups hélas, mais les Indiens, et à secourir les populations.
Marguerite Bourgeois, elle, après avoir vécu une extase, entre au Carmel.
Oui, et elle décide, elle choisit le plus dur, qui est de partir évangéliser les terres nouvelles, la Nouvelle-France.
Alors justement, vous écrivez, page 192 de votre livre « Amoureuse du grand siècle », l'Église avait ses raisons pour voir d'un mauvais œil ces francs-tireuses de la charité. Alors, tant qu'il s'agissait de dames pieuses, mais laïques, pratiquant l'aumône, les bonnes œuvres, sans renoncer à leur statut dans le monde, rien à redire, bien au contraire. Mais quand des filles prétendaient s'associer pour se donner aux pauvres, donc à Dieu, en dehors des filières traditionnelles, il en allait autrement. Donc,
oui.
L'Église ne voyait pas d'un bon œil ses futures mères Teresa en œuvre.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais je me demande même si Mère Teresa n'a pas eu quelques difficultés au début. Vous avez raison, d'ailleurs la comparaison est très bonne. En effet, ses filles échappaient un peu à la juridiction de l'Église. Cela dit, il ne faut pas accuser l'Église uniquement d'autoritarisme. L'Église savait aussi qu'elles allaient vers des dangers incroyables. Le Canada, c'était, comme a dit Voltaire, des arpents de neige et rien d'autre à l'époque, n'est-ce pas ? On circulait sur les fleuves quand par hasard ils n'étaient pas gelés. C'était une idée folle d'aller au Canada.
C'était des mesures de protection vis-à-vis d'elle et
aussi,
puis une incompréhension par rapport aux nouvelles routes qu'elle souhaitait tracer.
Absolument. Et en effet, elles ont eu, on le voit, les pires difficultés. Marguerite Bourgeois a d'ailleurs expliqué elle-même pourquoi il fallait qu'elle et ses filles, comme elle disait, soient libres de leur mouvement. Elle a dit, elle a écrit, « On nous demande pourquoi nous ne prenons pas la règle de quelqu'un des fondateurs d'ordre. On nous demande pourquoi nous ne faisons pas les vœux solennels. On nous demande pourquoi nous aimons mieux être vagabondes que cloîtrées. » Mais la réponse est toute simple. C'est parce que si elles avaient accepté tout ça, elles n'auraient jamais pu aller soigner les malades, aller secourir les gens qui mouraient dans la neige, etc., etc. C'était une charité à domicile, si j'ose dire. Elles ne pouvaient pas au Canada attendre que les mourants ou les malades viennent chez elles.
Et oui, il fallait franchir les murs du couvent pour aller vers l'autre, le prochain, oui. Le secourir, l'aimer.
D'où d'ailleurs les dangers inouïs qu'elles ont courus, parce qu'en n'étant pas cloîtrées, elles affrontaient les loups, la neige, les Indiens, le froid, tout.
Des courages extraordinaires au féminin.
Extraordinaire.
Alice Saunier-Seyité, Claude Dulon-Saint-Denis, était membre de l'Institut, un confrère de l'Académie des sciences morales et politiques. Au passage, je dis confrère à bon escient, car tout se dit au masculin, à l'Institut. Misogynie ?
Non, pas du tout. Moi, j'avoue que j'aurais dit consoeur, vous voyez.
Votre consoeur, Alice Lyonnais-Seyité, qui nous a quittés l'année dernière et à qui nous offrons ce programme exceptionnel diffusé sur Canal Académie à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et donc l'occasion de penser à elle et de redire quelques-uns des mots qu'elle a prononcés à l'Institut à l'occasion d'un colloque, en nous rappelant que lorsqu'on exerce de hautes responsabilités, le sang-froid devant l'obstacle, la rapidité, la justesse de l'analyse d'une situation, de la synthèse des données d'un problème, de la décision adéquate, impose la supériorité incontestée d'un individu, quel que soit son sexe. Et l'on sait très bien que le secret des grandes réussites réside dans les épreuves, les compétitions, les décisions, au cours desquelles ce n'est pas le caractère masculin ou le caractère féminin, mais le caractère tout court qui compte. Êtes-vous de son avis ?
Tout à fait, je trouve que c'est très bien dit.
Donc, pas de rivalité masculine, féminine, simplement la compétence avant tout.
Oui. Ce qui n'empêche qu'il y ait au cours des carrières toujours quelques petites jalousies quand un homme se voit soumis à l'autorité d'une femme devenant sa supérieure. C'est vrai, ça peut les agacer.
Que pensez-vous de sa remarque ? Depuis la plus haute antiquité, les sociétés ont accepté d'obéir à des souveraines. Alors Isabelle la Catholique, Catherine de Russie et tant d'autres, mais ces mêmes sociétés n'auraient pas admis qu'une femme fût ministre, gouverneur, directeur de manufacture ou chef de chantier. Pourquoi ?
C'est tout à fait vrai et c'est essentiellement pour la raison que nous avons vue à propos d'Anne d'Autriche, c'est parce qu'on était sûr qu'une régente, reine, ne tuerait pas l'héritier naturel du trône, son fils.
Donc, c'était des pouvoirs qui leur étaient accordés, concédés par la règle en
oui,
usage.
La régence. Il y a eu beaucoup de régences en France, il y en a eu en Angleterre. Il faudrait examiner le cas d'Élisabeth d'Angleterre. Il n'y avait pas de fils mâle, il n'y avait pas de fils, donc elle a été reine. Mais ça, pour la France, je suis sûre de ce que nous avons dit, pas de reine, mais des régentes.
Partagez-vous cette réflexion, cet avis ? Alice Saunier-Seyité nous disait, il y a quelques mois, « Il est sûr que l'arrivée des femmes dans le monde du pouvoir ne le moralisera pas, ne l'humanisera pas, comme certains l'affirment naïvement. Il n'est pas vrai que dans les hautes fonctions, les femmes soient plus sincères, plus dévouées, plus désintéressées que les hommes. » L'ambition, la réussite, le commandement ne se prêtent ni aux confidences, ni aux générosités, ni aux déclarations véridiques. Et nous pourrions aligner des preuves que les femmes manifestent autant que les hommes l'ambition féroce, la rivalité sans pitié, la duplicité et plus encore que l'autoritarisme ou l'outrecuidance de la réussite dans l'impitoyable compétition sociale. Il ne faut pas espérer qu'elles rénoveront les mœurs publiques. d'autant moins qu'elles apportent leurs revendications et l'esprit de revanche des minorités dites opprimées. Alors vous qui avez revisité les siècles, et notamment le grand siècle, c'est une peinture qui n'est pas optimiste par rapport à l'arrivée des femmes au pouvoir, telle que certaines pourraient le souhaiter, l'envisager. Que dire ? Quelle réflexion ? Hommes et femmes, même combat et même espèce humaine sur Terre.
En tout cas, je crois qu'elle a raison dans ce qu'elle dit, et c'est très bien dit. Moi, je n'ai pas l'expérience du pouvoir politique. Elle l'a eu, et en tout cas, je suis sûre que dans le pouvoir politique, c'est tout à fait ce qu'elle dit, et peut-être pire.
Donc, l'avenir de l'homme passe peut-être par celui de la femme, mais enfin, ce sont des avenirs tellement conjugués, l'un avec l'autre, et l'un ne peut pas aller sans l'autre.
Oui, ni avec toi, ni sans toi.
Ni avec toi, ni sans toi, une superbe formule, Claude Dulon-Saint-Denis, et qui nous entraîne à évoquer le prix Jean Saint-Denis. Alors, le prix qui porte le nom de votre époux, rappelez-nous en quoi correspond ce prix Jean Saint-Denis.
Eh bien, mon mari a joué il y a longtemps maintenant un rôle en Indochine qui aurait peut-être pu éviter la guerre d'Indochine. Je parle de la guerre franco-indochinoise. Il était resté très attaché à ce pays, à ses problèmes, et il a agi autant qu'il a pu pour une réconciliation. Il a écrit deux ouvrages sur ces questions et j'ai trouvé tout naturel à sa mort de fonder un prix en son nom qui serait à l'Académie, puisque j'y étais maintenant, et qui serait attribué à une œuvre touchant de préférence aux grandes questions de l'Asie, en tout cas de l'histoire contemporaine.
Un prix annuel ?
C'est un prix annuel,
et
oui, oui.
Qui est accordé ?
Nous avons une commission où je suis et nous examinons cette année. Je peux le dire, puisque c'est passé, nous l'avons attribué à Bernard Debray, pas tellement pour son livre sur Shanghai, mais pour son action dans les hôpitaux de Chine. Il a créé là des services et c'est très important comme lien à créer avec l'Extrême-Orient. Mais nous pouvons l'accorder aussi à un livre, même peut-être un jour un Vietnamien, si c'est un bon livre.
Alors, quels sont vos prochains travaux de recherche en tant qu'historienne ?
Moi, je n'ai pas à trop changer. Je suis revenue à mon cher XVIIe siècle et je tourne toujours autour de Mazarin parce que c'est un personnage qui a tant de facettes qu'on peut y passer pas mal d'années.
Quelle nouvelle facette cette fois-ci ?
Je me suis rendu compte qu'il y avait dans l'entourage de Mazarin, lui-même était un grand collectionneur, et je me suis rendu compte qu'il y avait dans son entourage des collectionneurs qui étaient inconnus. Ça m'a beaucoup surprise, mais vous savez, l'histoire est un domaine si vaste que vous ne pouvez pas demander aux spécialistes de... Alors, on connaît des tableaux, mais on ne connaît pas qui étaient les gens qui les possédaient. J'ai découvert ça un peu par hasard, et ça m'a tellement intéressée que je suis partie sur la piste de ces gens. Alors, je ne sais pas encore ce que ça va donner, peut-être un gros article simplement, mais en tout cas, ça m'amuse infiniment comme travail.
Et avez-vous découvert des collectionneuses ?
Non. Pas encore. En revanche, j'ai découvert des femmes qui jouaient un rôle dans le choix de leur mari.
Et que collectionnait Mazarin ?
Oh, Mazarin, tout. En vérité, Mazarin collectionnait tout, mais surtout la peinture.
Claude Dulon-Saint-Denis, merci d'avoir partagé ce moment avec les auditeurs de Canal Académie. Merci.
Merci.